Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chapitre 6. Dans la matinée du 25 février 1848, on apprit à Chavignoles par un individu venant de Falaise que Paris était couvert de barricades et le lendemain, la proclamation de la République fut affichée sur la mairie. Ce grand événement stupéfia les bourgeois. Mais quand on sut que la cour de cassation, la cour d'appel, la cour des comptes, le tribunal de commerce, la chambre des notaires, l'ordre des avocats, le conseil d'État, l'université, les généraux et monsieur de la Roche-Jacquelin lui-même donnaient leur adhésion au gouvernement provisoire, les poitrines se desserrèrent. Et comme à Paris on plantait des arbres de la liberté, le conseil municipal décida. Il en fallait à Chavignoles. Bouvard en offrit un, réjoui dans son patriotisme par le triomphe du peuple. Quant à Pécuchet, la chute de la royauté confirmait trop ses prévisions, pour qu'il ne fût pas content. Gorgules, obéissant avec zèle, déplanta un des peupliers qui bordait la prairie au-dessous de la butte et le transporta jusqu'au pas de la vaque à l'entrée du bourg, endroit désigné. Avant l'heure de la cérémonie, tous les trois attendaient le cortège. Un tambour retentit. Une croix d'argent se montra, ensuite parurent deux flambeaux que tenaient des chantres, et monsieur le curé, avec l'étole, le surplis, la chape et la barrette. Quatre enfants de chœur l'escortaient, un cinquième portait le seau pour l'eau bénite, et le sacristain le suivait. Il monta sur le rebord de la fosse où se dressait le peuplier garni de bandelettes tricolores. On voyait en face le maire et ses deux adjoints, Belljambe et Marescot, puis les notables, Monsieur de Faverges, Vaucorbeil, Coulon, le juge de paix, bonhomme à figure somnolente. Heurtaud s'était coiffé d'un bonnet de police et Alexandre Petit, le nouvel instituteur, avait mis sa redingote, une pauvre redingote verte, celle des dimanches. Les pompiers que commandait Girbal Sabre au poing formaient un seul rang. De l'autre côté brillaient les plaques blanches de quelques vieux chacos du temps de Lafayette, cinq ou six, pas plus, la garde nationale étant tombée en désuétude à Chavignoles. Des paysans et leurs femmes, des ouvriers des fabriques voisines, des gamins se tassaient par derrière. Et Plaquevent, le garde champêtre, haut de 5 pieds 8 pouces, les contenait du regard en se promenant, les bras croisés. La locution du curé fut comme celle des autres prêtres dans la même circonstance. Après avoir tonné contre les rois, il glorifia la République. Ne dit-on pas la République des lettres, la République chrétienne? Quoi de plus innocent que l'une, de plus beau que l'autre? Jésus-Christ formula notre sublime devise, l'arbre du peuple, c'était l'arbre de la croix. Pour que la religion donne ses fruits, elle a besoin de la charité, et au nom de la charité, l'ecclésiastique conjura ses frères de ne commettre aucun désordre, de rentrer chez eux paisiblement. Puis il aspergea l'arbuste en implorant la bénédiction de Dieu. Qu'il se développe et qu'il nous rappelle l'affranchissement de toute servitude et cette fraternité plus bienfaisante que l'ombrage de ses rameaux. Amen. Des voix répétèrent Amen. Et après un battement de tambour, le clergé, poussant un tédéum, reprit le chemin de l'église. Son intervention avait produit un excellent effet. Les simples y voyaient une promesse de bonheur, les patriotes une déférence, un hommage rendu à leurs principes. Bouvard et Pécuchet trouvaient qu'on aurait dû les remercier pour leur cadeau, y faire une allusion tout au moins. Et ils s'en ouvrirent à Faverges et au docteur. Qu'importait de pareille misère? Vaucorbeil était charmé de la Révolution, le comte aussi. Il exécrait les d'Orléans. On ne les reverrait plus, bon voyage. Tout pour le peuple désormais. Et suivi de Hurel, son factotum, il alla rejoindre monsieur le curé. Fourreau marchait la tête basse entre le notaire et l'aubergiste, vexé par la cérémonie, ayant peur d'une émeute, et instinctivement il se retournait vers le garde champêtre qui déplorait avec le capitaine l'insuffisance de Girbal et la mauvaise tenue de ses hommes. Des ouvriers passèrent sur la route en chantant la Marseillaise. Gorgues au milieu d'eux brandissait une canne, Petit les escortait, l'œil animé. « Je n'aime pas cela, » dit Marescot, « on vocifère, on s'exalte. »« Et bon Dieu, » reprit Coulon, « il faut que jeunesse s'amuse. » Fourreau soupira, drôle d'amusement, et puis la guillotine au bout. Il avait des visions d'échafaud, s'attendait à des horreurs. Chavignoles reçut le contre-coup des agitations de Paris, Les bourgeois s'abonnèrent à des journaux, le matin on s'encombrait au bureau de la poste et la directrice ne s'en fut pas tirée sans le capitaine qui l'aidait quelquefois. Ensuite on restait sur la place à causer. La première discussion violente eut pour objet la Pologne. Heurtaud et Bouvard demandaient qu'on la délivrât. Monsieur de Faverges pensait autrement. De quel droit irions-nous là-bas? C'était déchaîner l'Europe contre nous, pas d'imprudence. Et tout le monde l'approuvant, les deux Polonais se turent. Une autre fois, Vaucorbeil défendit les circulaires de Ledru-Rollin. Fourreau riposta par les 45 centimes. Mais le gouvernement dit Bécuchet avait supprimé l'esclavage. Qu'est-ce que ça me fait, l'esclavage? Eh bien, et l'abolition de la peine de mort en matière politique? Parbleu, reprit Fourreau, on voudrait tout abolir. Cependant, qui sait? Les locataires déjà se montrent d'une exigence. Tant mieux, les propriétaires, selon Pécuchet, étaient favorisés. Celui qui possède un immeuble, Fourreau et Marescot l'interrompirent, criant qu'il était un communiste. Moi, communiste. Et tous parlaient à la fois. Quand Pécuchet proposa de fonder un club, Fourreau eut la hardiesse de répondre que jamais on n'en verrait à Chavignol. Ensuite, Gorju réclama des fusils pour la garde nationale, l'opinion l'ayant désigné comme instructeur. Les seuls fusils qu'il y eut étaient ceux des pompiers, Girbal y tenait, Fourreau ne se souciait pas d'en délivrer. Gorju le regarda. « On trouve pourtant que je sais m'en servir ?» Car il joignit à toutes ses industries celles du braconnage, et souvent monsieur le maire et l'aubergiste lui achetaient un lièvre ou un lapin. « Ma foi, prenez-les, » dit Fourreau. Le soir même, on commença les exercices. C'était sur la pelouse, devant l'église. Gorju, en bourgeron bleu, une cravate autour des reins, exécutait les mouvements d'une façon automatique. Sa voix, quand il commandait, était brutale. « Rentrez les ventres !» Et tout de suite, Bouvard s'empêchant de respirer, creusait son abdomen, tendait la croupe. « On ne vous dit pas de faire un arc, nom de Dieu !» Pécuchet confondait les fils et les rangs, demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Mais le plus lamentable était l'instituteur. Débile et de taille exiguë, avec un collier de barbe blonde, il chancelait sous le poids de son fusil, dont la baïonnette incommodait ses voisins. On portait des pantalons de toutes les couleurs, des baudriers crasseux, de vieux habits d'uniforme trop courts, laissant voir la chemise sur les flancs, et chacun prétendait n'avoir pas le moyen de faire autrement. Une souscription fut ouverte pour habiller les plus pauvres. Fourreau lésina tandis que des femmes se signalèrent. Madame Bordin offrit 5 francs malgré sa haine de la République. Monsieur de Faverges équipa 12 hommes et ne manquait pas à la manœuvre. Puis il s'installait chez l'épicier et payait des petits verres au premier venu. Les puissants alors flagornaient la basse classe. Tout passait après les ouvriers. On briguait l'avantage de leur appartenir, ils devenaient des nobles. Ceux du canton pour la plupart étaient tisserands, d'autres travaillaient dans les manufactures d'indiennes ou à une fabrique de papier nouvellement établie. Gorju les fascinait par son bagout, leur apprenait la savate, menait boire les intimes chez Madame Castillon. Mais les paysans étaient plus nombreux, et les jours de marché, M. de Faverges, promenant sur la place, s'informait de leurs besoins, tâchait de les convertir à ses idées. Ils écoutaient sans répondre, comme le père Gouy, prêt à accepter tout gouvernement pourvu qu'on diminuât les impôts. À force de bavarder, Gorju se fit un nom, peut-être qu'on le porterait à l'Assemblée. Monsieur de Faverges y pensait comme lui tout en cherchant à ne pas se compromettre. Les conservateurs balançaient entre Fourreau et Marescot, mais le notaire tenant à son étude, Fourreau fut choisi. Un russe, un crétin, le docteur s'en indigna. Fruit sec des concours, il regrettait Paris et c'était la conscience de sa vie manquée qui lui donnait un air morose. Une carrière plus vaste allait se développer, quelle revanche! Il rédigea une profession de foi et vint la lire à messieurs Bouvard et Pécuchet. Ils l'en félicitèrent, leurs doctrines étaient les mêmes. Cependant, ils écrivaient mieux, connaissaient l'histoire, pouvaient aussi bien que lui figurer à la chambre. Pourquoi pas? Mais lequel devait se présenter? Et une lutte de délicatesse s'engagea. Pécuchet préférerait à lui-même son ami. « Non, ça te revient, tu as plus de prestance. »« Peut-être, » répondit Bouvard, « mais toi, plus de toupet. » Et sans résoudre la difficulté, ils dressèrent des plans de conduite. Ce vertige de la députation en avait gagné d'autres. Le capitaine y rêvait sous son bonnet de police tout en fumant sa bouffarde, et l'instituteur aussi dans son école, et le curé aussi entre 2 prières, tellement que parfois il se surprenait les yeux au ciel en train de dire « Faites, ô mon Dieu, que je sois député !» Le docteur, ayant reçu des encouragements, se rendit chez Urteau et lui exposa les chances qu'il avait. Le capitaine n'y mit pas de façon, vos corbeilles étaient connues sans doute, mais peu chéries de ses confrères, et spécialement des pharmaciens. Tous clabauderaient contre lui. Le peuple ne voulait pas d'un monsieur. Ses meilleurs malades le quitteraient, et ayant pesé ses arguments, le médecin regretta sa faiblesse. Dès qu'il fut parti, Urteau alla voir Plaquevent. Entre vieux militaires, on s'oblige, mais le garde-champêtre, tout dévoué à Fourreau, refusa net de le servir. Le curé démontra à M. de Faverge que l'heure n'était pas venue. Il fallait donner à la République le temps de s'user. Bouvard et Pécuchet représentèrent à Gourgues qu'il ne serait jamais assez fort pour vaincre la coalition des paysans et des bourgeois. L'empire d'incertitude lui ôtèrent toute confiance. Petit, par orgueil, avait laissé voir son désir. Bellejambe le prévint que s'il échouait, sa destitution était certaine. Enfin, Monseigneur ordonna au curé de se tenir tranquille. Donc, il ne restait que Fourreau. Bouvard et Pécuchet le combattirent, rappelant sa mauvaise volonté pour les fusils, son opposition au club, ses idées rétrogrades, son avarice, et même persuadèrent Agouy qu'il voulait rétablir l'ancien régime. Si vague que fût cette chose-là pour le paysan, il l'exécrait d'une haine accumulée dans l'âme de ses aïeux pendant 10 siècles, et il tourna contre Fourreau tous ses parents et ceux de sa femme, beaux-frères, cousins, arrière-neveux, une horde. Gourgues, Vaucorbeil et Petit continuaient la démolition de Monsieur le maire. Et le terrain ainsi déblayé, Bouvard et Pécuchet, sans que personne s'en doutât, pouvaient réussir. Ils tirèrent au sort pour savoir qui se présenterait. Le sort ne trancha rien, et ils allèrent consulter là-dessus le docteur. Il leur apprit une nouvelle. Flacardou, rédacteur du Calvados, avait déclaré sa candidature. La déception des deux amis fut grande, chacun, outre la sienne, ressentait celle de l'autre. Mais la politique les échauffait. Le jour des élections, ils surveillèrent les urnes. Flacardou l'emporta. Monsieur le comte s'était rejeté sur la garde nationale sans obtenir l'épaulette de commandant. Les Chabignolais imaginèrent de nommer Bellejambe. Cette faveur du public, bizarre et imprévue, consterna Urteau. Il avait négligé ses devoirs, se bornant à inspecter parfois les manœuvres et émettre des observations. N'importe, il trouvait monstrueux qu'on préférât un aubergiste à un ancien capitaine de l'Empire. Et il dit, après l'envahissement de la Chambre au 15 mai, « Si les grades militaires se donnent comme ça dans la capitale, je ne m'étonne plus de ce qui arrive. » La réaction commençait. On croyait aux purées d'ananas de Louis Blanc, aux lidors de flocons, aux orgies royales de Ledru Rollin, et comme la province prétend connaître tout ce qui se passe à Paris, les bourgeois de Chavignol ne doutaient pas de ses intentions, et admettaient les rumeurs les plus absurdes. Monsieur de Faverge, un soir, vint trouver le curé pour lui apprendre l'arrivée en Normandie du comte de Chambord. Joinville, d'après Fourreau, se disposait, avec ses marins, à vous réduire les socialistes. Urteau affirmait que prochainement, Louis Bonaparte serait consul. Les fabriques chômaient, des pauvres par bandes nombreuses, erraient dans la campagne. Un dimanche, c'était dans les premiers jours de juin, un gendarme tout à coup partit vers Falaise. Les ouvriers d'Agueville, Liffard, Pierrepont et Saint-Rémy marchaient sur Chavignol. Les auvents se fermèrent, le conseil municipal s'assembla et résolut pour prévenir des malheurs qu'on ne ferait aucune résistance. La gendarmerie fut même consignée avec l'injonction de ne pas se montrer. Bientôt, on entendit comme un grondement d'orage. Puis le chant des Girondins ébranla les carreaux, et des hommes bras dessous débouchèrent par la route de Caen, poudreux, en sueur, dépenaillés. Ils emplissaient la place. Un grand brouhaha s'élevait.
Gourgues et deux de ses compagnons entrèrent dans la salle. L'un était maigre et à figure chafouine, avec un gilet de tricot dont les rosettes pendaient. L'autre, noir de charbon, un mécanicien sans doute, avait les cheveux en brosse, de gros sourcils et des savates de lisière. Gourgues, comme un hussard, portait sa veste sur l'épaule. Tous les trois restaient debout, et les conseillers, siégeant autour de la table couverte d'un tapis bleu, les regardaient, blêmes d'angoisse.
« Citoyens, dit Gourgues, il nous faut de l'ouvrage. » Le maire tremblait, la voix lui manqua. Marescot répondit à sa place que le conseil aviserait immédiatement, et les compagnons étant sortis, on discuta plusieurs idées. La première fut de tirer du caillou. Pour utiliser les cailloux, Girbal proposa un chemin d'Angleville à Tournebus. Celui de Bayeux rendait absolument le même service. On pouvait curer la mare, ce n'était pas un travail suffisant, ou bien creuser une seconde mare, mais à quelle place?
Langlois était d'avis de faire un remblai le long des Mortains en cas d'inondation. Mieux valait, selon Bellejambe, défricher les bruyères. Impossible de rien conclure. Pour calmer la foule, Coulon descendit sur le péristyle et annonça qu'il préparait des ateliers de charité. « La charité ? Merci !» s'écria Gorju. « À bas, les aristos ! Nous voulons le droit au travail !» C'était la question de l'époque, il s'en faisait un moyen de gloire, on applaudit. En se retournant, il coudoya Bouvard, que Pécuchet avait entraîné jusque-là, et ils engagèrent une conversation. Rien ne pressait, la mairie était cernée, le conseil n'échapperait pas. « Où trouver de l'argent ?» disait Bouvard. « Chez les riches, d'ailleurs, le gouvernement ordonnera des travaux. Et si on n'a pas besoin de travaux, on en fera par avance. Mais les salaires baisseront, riposta Pécuchet, quand l'ouvrage vient à manquer, c'est qu'il y a trop de produits, et vous réclamez pour qu'on les augmente. » Gorju se mordait la moustache. « Cependant, avec l'organisation du travail, alors le gouvernement sera le maître. » Quelques-uns autour d'eux murmurèrent « Non, non, plus de maître. » Gorju s'irrita. « N'importe, on doit fournir aux travailleurs un capital ou bien instituer le crédit. De quelle manière ? Ah, je ne sais pas, mais on doit instituer le crédit. » « En voilà assez, dit le mécanicien, ils nous embêtent ces farceurs-là. » Et il gravit le perron, déclarant qu'il enfoncerait la porte. Plaquevent l'y reçut, le jarret droit fléchi, les poings serrés. « Avance un peu. » Le mécanicien recula. Une huée de la foule parvint dans la salle, tous se levèrent, ayant envie de s'enfuir. Le secours de Falaise n'arrivait pas. On déplorait l'absence de monsieur le comte. Maresco tortillait une plume, le père Coulon gémissait. Porthos s'emporta pour qu'on fît donner les gendarmes. « Commandez-les, dit Fourreau. Je n'ai pas d'ordre. » Le bruit redoublait cependant. La place était couverte de monde et tous observaient le premier étage de la mairie. Quant à la croisée du milieu, sous l'horloge, on vit paraître Pécuchet. Il avait pris adroitement l'escalier de service et voulant faire comme Lamartine, il se mit à haranguer le peuple. Citoyen. Mais sa casquette, son nez, sa redingote, tout son individu, manquait de prestige. L'homme au tricot l'interpella. « Est-ce que vous êtes ouvrier ?»« Non. »« Patron, alors ?»« Pas davantage. »« Eh bien, retirez-vous. »« Pourquoi ?» reprit fièrement Pécuchet, et aussitôt il disparut dans l'embrasure, empoigné par le mécanicien. Gorju vint à son aide. « Laisse-le, c'est un brave. » Il se colletait. La porte s'ouvrit, et Maresco, sur le seuil, proclama la décision municipale. Hurel l'avait suggéré. Le chemin de Tournebu aurait un embranchement sur Angleville et qui mènerait au château de Faverge. C'est un sacrifice que s'imposait la commune dans l'intérêt des travailleurs. Ils se dispersèrent. En rentrant chez eux, Bouvard et Pécuchet eurent les oreilles frappées par des voix de femmes. Les servantes et Madame Bordin poussaient des exclamations. La veuve riait plus fort et à leur aspect, « Ah, c'est bien heureux, depuis 3 heures que je vous attends. Mon pauvre jardin, plus une seule tulipe. Des cochonneries partout sur le gazon. Pas moyen de le faire démarrer. Qui cela ? Le père Gouy. Il était venu avec une charrette de fumier et l'avait jeté tout en vrac au milieu de l'herbe. Il laboure maintenant. Dépêchez-vous pour qu'il finisse. Je vous accompagne, dit Bouvard.
Au bas des marches, en dehors, un cheval dans les brancards d'un tombereau mordait une touffe de laurier rose.
Les roues en frôlant les plates-bandes avaient pilé les buis, cassé un rhododendron, abattu les dahlias et des mottes de fumier noir comme des taupinières posselaient le gazon. Oui, le bêcher avait ardeur. Un jour, Madame Bordin avait dit négligemment qu'elle voulait le retourner. Il s'était mis à la besogne et, malgré sa défense, continuait. C'est de cette manière qu'il entendait le droit au travail, les discours de Gorju lui ayant tourné la cervelle. Il ne partit que sur les menaces violentes de Bouvard. Madame Bordin, comme dédommagement, ne paya pas sa main-d'œuvre et garda le fumier. Elle était judicieuse. L'épouse du médecin et même celle du notaire, bien que d'un rang supérieur, la considérait. Les ateliers de charité durèrent une semaine, aucun trouble n'advint. Gorju avait quitté le pays. Cependant, la garde nationale était toujours sur pied. Le dimanche, une revue, promenade militaire quelquefois, et chaque nuit, des rondes. Elles inquiétaient le village. On tirait les sonnettes des maisons par facéties, on pénétrait dans les chambres où des époux ronflaient sur le même traversin, alors on disait des gaudrioles et le mari se levant « Allez vous chercher des petits verres ». Puis on revenait au corps de garde jouer un sang de domino, on y buvait du cidre, on y mangeait du fromage. Et le factionnaire qui s'ennuyait à la porte l'entrebâillait à chaque minute. L'indiscipline régnait grâce à la mollesse de Bellejambe. Tant éclatèrent les journées de juin, tout le monde fut d'accord pour voler au secours de Paris. Mais Fourreau ne pouvait quitter la mairie, Marescot son étude, le docteur sa clientèle, Girbal ses pompiers. Monsieur de Faverges était à Cherbourg. Bellejambe s'alita. Le capitaine grommelait, on n'a pas voulu de moi, tant pis. Et Bouvard eut la sagesse de retenir Pécuchet. Les rondes dans la campagne furent étendues plus loin. Des paniques survenaient, causées par l'ombre d'une meule ou les formes des branches. Une fois, tous les gardes nationaux s'enfuirent. Sous le clair de la lune, ils avaient aperçu dans un pommier un homme avec un fusil et qui les tenait en joue. Une autre fois, par une nuit obscure, la patrouille faisant halte sous la hêtraie entendit quelqu'un devant elle. « Qui vive ?» Pas de réponse. On laissa l'individu continuer sa route en le suivant à distance, car il pouvait avoir un pistolet ou un casse-tête. Mais quand on fut dans le village, à portée de secours, les 12 hommes du peloton, tous à la fois, se précipitèrent sur lui en criant « Vos papiers !» Il le houspillait, l'accablait d'injures. Ceux du corps de garde étaient sortis, on l'y traîna, et à la lueur de la chandelle brûlant sur le poêle, on reconnut enfin Gorju. Un méchant paletot de casting craquait à ses épaules, ses orteils se montraient par les trous de ses bottes. Des éraflures et des contusions faisaient saigner son visage. Il était amaigri prodigieusement et roulait des yeux comme un loup. Fourreau accourut bien vite, lui demanda comment il se trouvait sous la hêtraie, ce qu'il revenait faire à Chavignoles, l'emploi de son temps depuis 6 semaines. Ça ne les regardait pas, il était libre. Plaquevent le fouilla pour découvrir des cartouches, on allait provisoirement le coffrer. Bouvard s'interposa. « Inutile, reprit le maire, on connaît vos opinions. Cependant, ah, prenez garde. Je vous en avertis, prenez garde. » Bouvard n'insista plus. Gorju alors se tourna vers Pécuchet. « Et vous, patron, vous ne dites rien ?» Pécuchet baissa la tête comme s'il eût douté de son innocence. Le pauvre diable eut un sourire d'amertume. « Je vous ai défendu pourtant. » Au petit jour, deux gendarmes l'emmenèrent à Falaise. Il ne fut pas traduit devant un conseil de guerre, mais condamné par la correctionnelle à 3 mois de prison pour délit de parole tendant au bouleversement de la société. De Falaise, il écrivit à ses anciens maîtres de lui envoyer prochainement un certificat de bonne vie et mœurs, et leur signature devant être légalisée par le maire ou par l'adjoint, ils préférèrent demander ce petit service à Marescot. On les introduisit dans la salle à manger que décoraient des plats de vieille faïence, une horloge de boule occupait le panneau le plus étroit. Sur la table d'acajou sans nappe, il y avait 2 serviettes, une théière, des bols. Madame Marescot traversa l'appartement dans un peignoir de cachemire bleu. C'était une Parisienne qui s'ennuyait à la campagne. Puis le notaire entra, une toque à la main, un journal de l'autre. Et tout de suite, d'un air aimable, il apposa son cachet, bien que leur protégé fût un homme dangereux. « Vraiment, dit Bouvard, pour quelques paroles. Quand la parole amène des crimes, cher monsieur, permettez. » Cependant, reprit Pécuchet, quelle démarcation établir entre les phrases innocentes et les coupables. Telle chose défendue maintenant sera par la suite applaudie. Et il blâma la manière féroce dont on traitait les insurgés. Marescot allégua naturellement la défense de la société, le salut public. Loi suprême. Pardon, dit Pécuchet, le droit d'un seul est aussi respectable que celui de tous, et vous n'avez rien à lui objecter que la force s'il retourne contre vous l'axiome. Marescot, au lieu de répondre, leva les sourcils dédaigneusement. Pourvu qu'il continuât à faire des actes et à vivre au milieu de ses assiettes dans son petit intérieur confortable, toutes les injustices pouvaient se présenter sans l'émouvoir. Les affaires le réclamaient, il s'excusa. Sa doctrine du salut public les avait indignés, les conservateurs parlaient maintenant comme Robespierre. Autre sujet d'étonnement, Cavaignac baissait. La garde mobile devint suspecte. Le Dru Rollin s'était perdu dans l'esprit de Vaucorbeil. Les débats sur la Constitution n'intéressèrent personne, et au 10 décembre, tous les Chavignolais votèrent pour Bonaparte. Les 6 millions de voix refroidirent Pécuchet à l'encontre du peuple, et Bouvard et lui étudièrent la question du suffrage universel. Appartenant à tout le monde, il ne peut avoir d'intelligence. Un ambitieux le mènera toujours, les autres obéiront comme un troupeau, les électeurs n'étant pas même contraints de savoir lire. C'est pourquoi, suivant Pécuchet, il y avait eu tant de fraudes dans l'élection présidentielle. « Aucune, reprit Bouvard, je crois plutôt à la sottise du peuple. Pense à tous ceux qui achètent la Revalessière, la pommade du Buitrin, l'eau des châtelaines, etc.
Ces nigauds forment la masse électorale et nous subissons leur volonté. Pourquoi ne peut-on se faire, avec des lapins, 3000 livres de rente? C'est qu'une agglomération trop nombreuse est une cause de mort. De même, par le seul fait de la foule, les germes de bêtises qu'elle contient se développent, et il en résulte des effets incalculables. « Ton scepticisme m'épouvante, » dit Pécuchet. Plus tard, au printemps, ils rencontrèrent M. de Faverges qui leur apprit l'expédition de Rome. On n'attaquerait pas les Italiens, mais il nous fallait des garanties. Autrement, notre influence était ruinée, rien de plus légitime que cette intervention. Bouvard écarquilla les yeux. « À propos de la Pologne, vous souteniez le contraire. Ce n'est plus la même chose. Maintenant, il s'agissait du pape. Et M. de Faverges, en disant « Nous voulons, nous ferons, nous comptons bien représenter un groupe. » Bouvard et Pécuchet furent dégoûtés du petit nombre comme du grand. La plèbe, en somme, valait l'aristocratie. Le droit d'intervention leur semblait louche. Ils en cherchèrent les principes dans Calvo, Martens, Vatel, et Bouvard conclut. On intervient pour remettre un prince sur le trône, pour affranchir un peuple ou par précaution en vue d'un danger. Dans les deux cas, c'est un attentat aux droits d'autrui, un abus de la force, une violence hypocrite. Cependant, dit Pécuchet, les peuples, comme les hommes, sont solidaires. Peut-être, et Bouvard se mit à rêver. Bientôt commença l'expédition de Rome. À l'intérieur, en haine des idées subversives, l'élite des bourgeois parisiens saccagea deux imprimeries. Le grand parti de l'ordre se formait. Il avait pour chef dans l'arrondissement Monsieur le Comte, Fourreau, Maresco, le curé. Tous les jours vers 4 heures, il se promenait d'un bout à l'autre de la place et causait des événements. L'affaire principale était la distribution des brochures. Les titres ne manquaient pas de saveur. Dieu le voudra, le partageux, sortons du gâchis. Où allons-nous? Ce qu'il y avait de plus beau, c'était les dialogues en style villageois avec des jurons et des fautes de français pour élever le moral des paysans. Par une nouvelle loi, le colportage se trouvait aux mains des préfets et on venait de fourrer Proudhon à Sainte-Pélagie. Immense victoire. Les arbres de la liberté furent abattus généralement. Chavignol obéit à la consigne. Bouvard vit de ses yeux les morceaux de son peuplier sur une brouette. Ils servirent à chauffer les gendarmes et on offrit la souche à monsieur le curé qui l'avait béni pourtant. Quelle dérision! L'instituteur ne cacha pas sa manière de penser. Bouvard et Pécuchet l'en félicitèrent un jour qu'il passait devant sa porte. Le lendemain, il se présenta chez eux. À la fin de la semaine, ils lui rendirent sa visite. Le jour tombé, les gamins venaient de partir et le maître d'école en bout de manche balayait la cour. Sa femme, coiffée d'un madras, allaitait un enfant. Une petite fille se cacha derrière sa jupe, un mioche hideux jouait par terre à ses pieds. L'eau du savonnage qu'elle faisait dans la cuisine coulait au bas de la maison. « Vous voyez, dit l'instituteur, comme le gouvernement nous traite. » Et tout de suite, il s'en prit à l'infâme capitale, il fallait le démocratiser, affranchir la matière. « Je ne demande pas mieux, dit Pécuchet. Au moins, on aurait dû reconnaître le droit à l'assistance. »« Encore un droit, dit Bouvard. » N'importe, le provisoire avait été mollasse en n'ordonnant pas la fraternité. Tâchez donc de l'établir. Comme il ne faisait plus clair, Petit commanda brutalement à sa femme de monter un flambeau dans son cabinet. Des épingles fixaient au mur de plâtre les portraits lithographiés des orateurs de la gauche, un casier avec des livres dominait un bureau de sapin. On avait pour s'asseoir une chaise, un tabouret et une vieille caisse à savon. Il affectait d'en rire. Mais la misère plaquait ses joues et ses tempes étroites dénotaient un entêtement de bélier, un intraitable orgueil. Jamais il ne calerait. Voilà d'ailleurs ce qui me soutient. C'était un amas de journaux sur une planche et il exposa en paroles fiévreuses les articles de sa foi. Désarmement des troupes, abolition de la magistrature, égalité des salaires, niveau moyen par lequel on obtiendrait l'âge d'or, sous la forme de la République, avec un dictateur à la tête, un gaillard, pour vous mener ça rondement. Puis il atteignit une bouteille d'anisette et 3 verres afin de porter un toast au héros, à l'immortelle victime, au grand Maximilien. Sur le seuil, la robe noire du curé parut. Ayant salué vivement la compagnie, il aborda l'instituteur et lui dit presque à voix basse « Notre affaire de Saint-Joseph, où en est-elle ? » « Ils n'ont rien donné, » reprit le maître d'école. « C'est de votre faute ? » « J'ai fait ce que j'ai pu. »« Ah, vraiment ?» Bouvard et Pécuchet se levèrent par discrétion. Petit les fit se rasseoir et s'adressant au curé. « Est-ce tout ? L'abbé Geoffroy hésita, puis avec un sourire qui tempérait sa réprimande, on trouve que vous négligez un peu l'histoire sainte.
Oh, l'histoire sainte, reprit Bouvard. Que lui reprochez-vous, monsieur ?
Moi, rien. Seulement, il y a peut-être des choses plus utiles que l'anecdote de Jonas et les rois d'Israël.
Libre à vous, répliqua sèchement le prêtre. Et sans souci des étrangers, ou à cause d'eux, l'heure du catéchisme est trop courte.
Petit leva les épaules. Faites attention, vous perdrez vos pensionnaires. Les 10 francs par mois de ses élèves étaient le meilleur de sa place, mais la soutane l'exaspérait. Tant pis, vengez-vous.
Un homme de mon caractère ne se venge pas, dit le prêtre sans s'émouvoir. Seulement je vous rappelle que la loi du 15 mars nous attribue la surveillance de l'instruction primaire.
Et je le sais bien, s'écria l'instituteur. Elle appartient même au colonel de gendarmerie. Pourquoi pas au garde champêtre? Ce serait complet.
Et il s'affaissa sur l'escabeau, mordant son poing, retenant sa colère suffoquée par le sentiment de son impuissance. L'ecclésiastique le toucha légèrement sur l'épaule.
« Je n'ai pas voulu vous affliger, mon ami, calmez-vous, un peu de raison. Voilà Pâques bientôt, j'espère que vous donnerez l'exemple en communiant avec les autres. »«
Ah, c'est trop fort. Moi, me soumettre à de pareilles bêtises. »
Devant ce blasphème, le curé pâlit, ses prunelles fulguraient, sa mâchoire tremblait.
« Taisez-vous, malheureux, taisez-vous !»
Et c'est sa femme qui soigne les linges de l'église.
« Eh bien, quoi qu'a-t-elle fait ?»
Elle manque toujours la messe, comme vous d'ailleurs.
Et on ne renvoie pas un maître d'école pour ça.
On peut le déplacer. Le prêtre ne parla plus, il était au fond de la pièce dans l'ombre, petit, la tête sur la poitrine, songeait. Ils arriveraient à l'autre bout de la France, leur dernier sou mangé par le voyage, et ils retrouveraient là-bas, sous des noms différents, le même curé, le même recteur, le même préfet. Tous, jusqu'au ministre, étaient comme les anneaux de sa chaîne accablante. Il avait reçu déjà un avertissement, d'autres viendraient. Ensuite, et dans une sorte d'hallucination, il se vit marchant sur une grande route, un sac au dos, ceux qu'il aimait près de lui, la main tendue vers une chaise de poste. À ce moment-là, sa femme, dans la cuisine, fut prise d'une quinte de toux. Le nouveau-né se mit à vagir, et le marmot pleurait. « Pauvres enfants, dit le prêtre d'une voix douce. » Le père alors éclata en sanglots.
« Oui, tout ce que l'on voudra. »«
J'y compte, » reprit le curé. Et ayant fait la révérence, « Messieurs, bien le bonsoir. » Le maître d'école restait la figure dans les mains. Il repoussa Bouvard.
« Non, laissez-moi, j'ai envie de crever. Je suis un misérable. »
Les deux amis regagnèrent leur domicile en se félicitant de leur indépendance. Le pouvoir du clergé les effrayait. On l'appliquait maintenant à raffermir l'ordre social, la République allait bientôt disparaître. 3 millions d'électeurs se trouvèrent exclus du suffrage universel, le cautionnement des journaux fut élevé, la censure rétablie. On en voulait au roman feuilleton, la philosophie classique était réputée dangereuse. Les bourgeois prêchaient le dogme des intérêts matériels, et le peuple semblait content. Celui des campagnes revenait à ses anciens maîtres. Monsieur de Faverges, qui avait des propriétés dans l'heure, fut porté à la législative, et sa réélection au Conseil général du Calvados était d'avance certaine. Il jugea bon d'offrir un déjeuner aux notables du pays. Le vestibule, où 3 domestiques les attendaient pour prendre leurs paletots, le billard et les 2 salons en enfilade, les plantes dans les vases de la Chine, les bronzes sur les cheminées, les baguettes d'or au lambris, les rideaux épais, les larges fauteuils, ce luxe immédiatement les frappa comme une politesse qu'on leur faisait. Et en entrant dans la salle à manger, au spectacle de la table couverte de viande sur les plats d'argent, avec la rangée des verres devant chaque assiette, les hors-d'œuvre çà et là et un saumon au milieu, tous les visages s'épanouirent. Ils étaient 17, y compris 2 forts cultivateurs, le sous-préfet de Bayeux et un individu de Cherbourg. Monsieur de Faverges pria ses hôtes d'excuser la comtesse empêchée par une migraine. Et après les compliments sur les poires et les raisins qui emplissaient 4 corbeilles aux angles, il fut question de la grande nouvelle, le projet d'une descente en Angleterre par Changarnier. Heurtot la désirait comme soldat, le curé en haine des protestants, fourreau dans l'intérêt du commerce. « Vous exprimez, dit Pécuchet, des sentiments du Moyen-Âge. »«
Le Moyen-Âge avait du bon, reprit Marescot. » Ainsi nos cathédrales. Cependant, monsieur, les abus. N'importe, la révolution ne serait pas arrivée. Ah, la révolution, voilà le malheur, dit l'ecclésiastique en soupirant. Mais tout le monde y a contribué, et excusez-moi, monsieur le comte, les nobles eux-mêmes par leur alliance avec les philosophes. Que voulez-vous, Louis XVIII, à légaliser la spoliation? Depuis ce temps-là, le régime parlementaire vous sape les bases. Un rosbif parut, et durant quelques minutes, on entendit que le bruit des fourchettes et des mâchoires, avec le pas des servants sur le parquet, et ces deux mots répétés, Madère, Sauterne. La conversation fut reprise par le monsieur de Cherbourg, comment s'arrêter sur le penchant de l'abîme. Chez les Athéniens, dit Maresco, chez les Athéniens avec lesquels nous avons des rapports, Solon mata les démocrates en élevant le sens électoral. Mieux vaudrait, dit Hurel, supprimer la chambre, tout le désordre vient de Paris. Décentralisons, dit le notaire. Largement, reprit le comte. D'après Fourreau, la commune devait être maîtresse absolue jusqu'à interdire ses routes aux voyageurs si elle le juge convenable. Et pendant que les plats se succédaient, poules au jus, écrevisses, champignons, légumes en salade, rôtis d'alouette, bien des sujets furent traités. Le meilleur système d'impôts, les avantages de la grande culture, l'abolition de la peine de mort, le sous-préfet n'oublia pas de citer ce mot charmant d'un homme d'esprit, que messieurs les assassins commencent. Bouvard était surpris par le contraste des choses qui l'entouraient avec celles que l'on disait. Car il semble toujours que les paroles doivent correspondre au milieu et que les hauts plafonds soient faits pour les grandes pensées. Néanmoins, il était rouge au dessert et entrevoyait les compotiers dans un brouillard. On avait pris des vins de Bordeaux, de Bourgogne et de Malaga. Monsieur de Faverges, qui connaissait son monde, fit des bouchées du champagne. Les convives en trinquant burent au succès de l'élection, et il était plus de 3 heures quand ils passèrent dans le fumoir pour prendre le café. Une caricature du Charivari traînait sur une console entre des numéros de l'Univers. Cela représentait un citoyen dont les basques de la redingote laissaient voir une queue se terminant par un œil. Maresco en donna l'explication. On rit beaucoup. Ils absorbaient des liqueurs, et la cendre des cigares tombait dans les capitons des meubles. L'abbé, voulant convaincre Gerbal, attaqua Voltaire. Coulon s'endormit. Monsieur de Faverges déclara son dévouement pour Chambord. Les abeilles prouvent la monarchie. Mais les fourmilières, la République, du reste le médecin n'y tenait plus. Vous avez raison, dit le sous-préfet, la forme du gouvernement importe peu. Avec la liberté, objecta Pécuchet. Un honnête homme n'en a pas besoin, répliqua Fourreau. Je ne fais pas de discours, moi. Je ne suis pas journaliste. Et je vous soutiens que la France veut être gouvernée par un bras de fer. Tous réclamaient un sauveur. Et en sortant, Bouvard et Pécuchet entendirent M. de Faverges qui disait à l'abbé Geoffroy « Il faut rétablir l'obéissance. L'autorité se meurt si on la discute. Le droit divin, il n'y a que ça. Parfaitement, monsieur le comte. » Les pâles rayons d'un soleil d'octobre s'allongeaient derrière les bois, un vent humide soufflait. Et en marchant sur les feuilles mortes, il respirait comme délivré. Tout ce qu'il n'avait pu dire s'échappa en exclamations. Quels idiots, quelle bassesse! Comment imaginer tant d'entêtement? D'abord, que signifie le droit divin? L'ami de Dumouchel, ce professeur qui les avait éclairés sur l'esthétique, répondit à leurs questions dans une lettre savante. La théorie du droit divin a été formulée sous Charles II par l'anglais Filmer. La voici. Le Créateur donna au premier homme la souveraineté du monde, elle fut transmise à ses descendants, et la puissance du roi émane de Dieu. Il est son image, écrit Bossuet. L'empire paternel accoutume à la domination d'un seul, on a fait les rois d'après le modèle des pères. Locke réfuta cette doctrine, le pouvoir paternel se distingue du monarchique, tout sujet ayant le même droit sur ses enfants que le monarque sur les siens. La royauté n'existe que par le choix populaire, et même l'élection était rappelée dans la cérémonie du sacre, où deux évêques, en montrant le roi, demandaient aux nobles et aux manants s'ils l'acceptaient pour tel. Donc le pouvoir vient du peuple, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, dit Helvétius, de changer sa constitution, dit Vatel, de se révolter contre l'injustice, prétendent Glafé, Haussmann, Mably, etc. Et saint Thomas d'Aquin l'autorise à se délivrer d'un tyran. Il est même, dit Jurieux, dispensé d'avoir raison. Étonné de l'axiome, ils prirent le contrat social de Rousseau. Pécuchet alla jusqu'au bout, puis fermant les yeux et se renversant la tête, il en fit l'analyse.
On suppose une convention par laquelle l'individu aliéna sa liberté. Le peuple en même temps s'engageait à le défendre contre les inégalités de la nature et le rendait propriétaire des choses qu'il détient. Où est la preuve du contrat? Nulle part, et la communauté n'offre pas de garantie. Les citoyens s'occuperont exclusivement de politique, mais comme il faut des métiers, Rousseau conseille l'esclavage. Les sciences ont perdu le genre humain, le théâtre est corrupteur, l'argent funeste, et l'État doit imposer une religion sous peine de mort. Comment, se dirent-ils, voilà le pontife de la démocratie? Tous les réformateurs l'ont copié, et ils se procurèrent l'examen du socialisme par Morand. Le chapitre premier expose la doctrine saint-simonienne. Au sommet, le père, à la fois pape et empereur, abolition des héritages, tous les biens meubles et immeubles, composant un fonds social qui sera exploité hiérarchiquement. Les industriels gouverneront la fortune publique, mais rien à craindre, on aura pour chef celui qui aime le plus. Il manque une chose, la femme. De l'arrivée de la femme dépend le salut du monde. « Je ne comprends pas, ni moi. » Et ils abordèrent le fourriérisme. Tous les malheurs viennent de la contrainte, que l'attraction soit libre et l'harmonie s'établira.
Notre âme renferme 12 passions principales.
5 égoïstes, 4 animiques, 3 distributives. Elles tendent les premières à l'individu, les suivantes au groupe, les dernières au groupe de groupes ou séries dont l'ensemble est la phalange, société de 1800 personnes, habitant un palais. Chaque matin, des voitures emmènent les travailleurs dans la campagne et les ramènent le soir. On porte des étendards, on se donne des fêtes, on mange des gâteaux. Toute femme, si elle y tient, possède 3 hommes, le mari, l'amant et le géniteur. Pour les célibataires, le bayadérisme est institué. « Ça me va, » dit Bouvard, et il se perdit dans les rêves du monde harmonien. Par la restauration des climatures, la terre deviendra plus belle, par le croisement des races, la vie humaine plus longue. On dirigera les nuages comme on fait maintenant de la foudre, il pleuvra la nuit sur les villes pour les nettoyer. Des navires traverseront les mers polaires dégelées sous les aurores boréales. Car tout se produit par la conjonction des deux fluides, mâle et femelle, jaillissant des pôles, et les aurores boréales sont un symptôme du rude de la planète, une émission prolifique. « Cela me passe, » dit Pécuchet. Après Saint-Simon et Fourier, le problème se réduit à des questions de salaire. Louis Blanc, dans l'intérêt des ouvriers, veut qu'on abolisse le commerce extérieur, la farelle qu'on impose les machines, un autre qu'on dégrève les boissons ou qu'on refasse les Girondes ou qu'on distribue des soupes. Proudhon imagine un tarif uniforme et réclame pour l'État le monopole du sucre. Ces socialistes, disait Bouvard, demandent toujours la tyrannie. Mais non, si fait, tu es absurde, toi tu me révoltes. Ils firent venir les ouvrages dont ils ne connaissaient que les résumés, Bouvard nota plusieurs endroits et les montrant, lis toi-même. Il nous propose comme exemple les Esséniens, les frères Moraves, les Jésuites du Paraguay et jusqu'au régime des prisons. Chez les Icariens, le déjeuner se fait en 20 minutes. Les femmes accouchent à l'hôpital, quant au livre défense d'en imprimer sans l'autorisation de la République. Mais Cabet est un idiot. Maintenant, voilà du Saint-Simon. Les publicistes soumettront leurs travaux à un comité d'industriels. Et du Pierre Leroux, la loi forcera les citoyens à entendre un orateur. Et de l'Auguste Comte, les prêtres éduqueront la jeunesse, dirigeront toutes les œuvres de l'esprit et engageront le pouvoir à régler la procréation. Ces documents affligèrent Pécuchet. Le soir, au dîner, il répliqua. Qu'il y ait chez les utopistes des choses ridicules, j'en conviens. Cependant, ils méritent notre amour. La hideur du monde les désolait, et pour le rendre plus beau, ils ont tout souffert. Rappelle-toi, Maurus décapité, Campanella mis 7 fois à la torture, Buonarroti avec une chaîne autour du cou, Saint-Simon crevant de misère, bien d'autres. Ils auraient pu vivre tranquilles, mais non, ils ont marché dans leur voie, la tête au ciel, comme des héros. « Crois-tu que le monde, reprit Bouvard, changera grâce aux théories d'un monsieur ?»« Qu'importe, dit Pécuchet, Il est temps de ne plus croupir dans l'égoïsme. Cherchons le meilleur système. Alors tu comptes le trouver.
Certainement.
Toi.
Et dans le rire dont Bouvard fut pris, ses épaulets et son ventre sautaient d'accord. Plus rouge que les confitures, avec sa serviette sous l'aisselle, il répétait « d'une façon irritante.
Pécuchet sortit de l'appartement en faisant claquer la porte.
Germaine le héla par toute la maison et on le découvrit au fond de sa chambre, dans une bergère, sans feu ni chandelle, et la casquette sur les sourcils. Il n'était pas malade, mais se livrait à ses réflexions. La brouille étant passée, ils reconnurent qu'une base manquait à leurs études, l'économie politique. Ils s'enquirent de l'offre et de la demande, du capital et du loyer, de l'importation, de la prohibition. Une nuit, Pécuchet fut réveillé par le craquement d'une botte dans le corridor. La veille, comme d'habitude, il avait tiré lui-même tous les verrous, et il appela Bouvard, qui dormait profondément. Ils restèrent immobiles sous leur couverture. Le bruit ne recommença pas. Les servantes, interrogées, n'avaient rien entendu. Mais en se promenant dans leur jardin, ils remarquèrent au milieu d'une plate-bande près de la claire-voie l'empreinte d'une semelle et deux bâtons du treillage étaient rompus. On l'avait escaladé, évidemment. Il fallait prévenir le garde champêtre. Comme il n'était pas à la mairie, Pécuchet se rendit chez l'épicier. Que vit-il dans l'arrière-boutique à côté de Plaquevent, parmi les buveurs? Gorju, Gorju nippé comme un bourgeois et régalant la compagnie. Cette rencontre était insignifiante. Bientôt, ils arrivèrent à la question du progrès. Bouvard n'en doutait pas dans le domaine scientifique, mais en littérature, il est moins clair, et si le bien-être augmente, la splendeur de la vie a disparu. Pécuchet, pour le convaincre, prit un morceau de papier. Je trace obliquement une ligne ondulée. Ceux qui pourraient la parcourir toutes les fois qu'elle s'abaisse ne verraient plus l'horizon. Elle se relève pourtant et malgré ses détours, ils atteindront le sommet. Telle est l'image du progrès. Madame Bordin entra. C'était le 3 décembre 1851. Elle apportait le journal. Ils lurent bien vite et côte à côte l'appel au peuple, la dissolution de la Chambre, l'emprisonnement des députés. Pécuchet devint blême. Bouvard considérait la veuve. « Comment, vous ne dites rien? Que voulez-vous que j'y fasse ?» Ils oubliaient de lui offrir un siège. « Moi qui suis venu, croyant vous faire plaisir. Ah, vous n'êtes guère aimable aujourd'hui. » Et elle sortit choquée de leur impolitesse. La surprise les avait rendus muets, puis ils allèrent dans le village épandre leur indignation. Maresco, qui les reçut au milieu des contrats, pensait différemment. Le bavardage de la Chambre était fini grâce au ciel, on aurait désormais une politique d'affaires. Bellejambe ignorait les événements et s'en moquait d'ailleurs. Sous les halles, ils arrêtèrent vos corbeilles. Le médecin était revenu de tout ça. Vous avez bien tort de vous tourmenter. Fourreau passa près d'eux en disant d'un air narquois, « Enfoncez les démocrates !» Et le capitaine, au bras de Girbal, cria de loin, « Vive l'empereur !» Mais Petit devait les comprendre, et Bouvard ayant frappé au carreau, le maître d'école quitta sa classe. Il trouvait extrêmement drôle que Thiers fût en prison. Cela vengeait le peuple. Ah ah, messieurs les députés, à votre tour! La fusillade sur les boulevards eut l'approbation de Chavignol. Pas de grâce aux vaincus, pas de pitié pour les victimes. Dès qu'on se révolte, on est un scélérat. Remercions la Providence, disait le curé, et après elle, Louis Bonaparte. Il s'entoure des hommes les plus distingués. Le comte de Faverges deviendra sénateur. Le lendemain, ils eurent la visite de Plaquevent. Ces messieurs avaient beaucoup parlé, ils les engageaient à se taire. « Veux-tu savoir mon opinion ?» dit Pécuchet. « Puisque les bourgeois sont féroces, les ouvriers jaloux, les prêtres serviles, et que le peuple enfin accepte tous les tyrans pourvu qu'on lui laisse le museau dans sa gamelle, Napoléon a bien fait. » Qu'il le bâillonne, le foule et l'extermine. Ce ne sera jamais trop pour sa haine du droit, sa lâcheté, son ineptie, son aveuglement. Bouvard songeait. Le progrès, quelle blague! Il ajouta. Et la politique, une belle saleté. Ce n'est pas une science, reprit Pécuchet. L'art militaire vaut mieux, on prévoit ce qui arrive. Nous devrions nous y mettre. Ah merci, répliqua Bouvard. Tout me dégoûte. Vendons plutôt notre baraque et allons au tonnerre de Dieu chez les sauvages. Comme tu voudras.
Mélie dans la cour tirait de l'eau. La pompe en bois avait un long levier. Pour le faire descendre, elle courbait les reins, et on voyait alors ses bas bleus jusqu'à la hauteur de son mollet. Puis d'un geste rapide, elle levait son bras droit tandis qu'elle tournait un peu la tête. Et Pécuchet, en la regardant, sentait quelque chose de tout nouveau, un charme, un plaisir infini.